VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 25 juillet 2022. Avec vous Eric Manelakiza, voici d'abord le sommaire. En RDC, des manifestations contre la mission de l'ONU à Goma tournent au pillage. Une trentaine de personnes sont mortes dimanche soir. Un quart de voyageurs a chuté d'un pont dans le centre du Kenya. En Tunisie, référendum sur une nouvelle constitution. L'opposition a appelé au boycott. Un violent incendie ravage la forêt californienne. Des milliers de personnes ont été évacuées. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Un collectif de partis politiques camerounais a appelé lundi Emmanuel Macron à reconnaître les crimes de la France coloniale à quelques heures de la visite officielle au Cameroun du chef de l'État français qui doit rencontrer son homologue Paul Biya. Emmanuel Macron doit donc débuter demain, mardi à Yaoundé, une tournée de 4 jours sur le continent. Les entretiens avec le président Paul Biya devraient aussi porter sur la menace de Boko Haram dans le nord du pays et le conflit qui oppose dans le nord-ouest et le sud-ouest depuis plus de 5 ans des groupes armés séparatistes aux forces de l'ordre. Monsieur Macron s'en rendra également au Bénin, confronté aux défis sécuritaires au Sahel et en Guinée-Bissau. Ce déplacement permettra au président français de réaffirmer son engagement dans la démarche de renouvellement de la relation de la France avec le continent africain, avait expliqué l'Élysée. La mission de l'ONU au Mali a reconnu des dysfonctionnements après la demande d'explication de la junte sur la situation de 49 militaires ivoiriens détenus depuis 2 semaines, accusés d'être des mercenaires par Bamako. Le président Alassane Ouattara a exigé la libération sans délai de ces soldats et exhorté les Nations Unies à faire la lumière sur cette affaire. Dans l'est de la RDC, des installations de la MONUSCO à Goma ont été pillées par des manifestants en colère 10 jours après un appel du président du Sénat au départ des casques bleus. Nani Tetalani.
Des centaines de manifestants ont barricadé les grandes artères de Goma et pris d'assaut le siège local de la mission onusienne et sa base logistique située hors du centre de la ville. Au quartier général de la MONUSCO, ces manifestants ont brûlé des pneus et des objets en plastique devant le portail. Ils ont cassé les murs, les vitres et pillé des ordinateurs, des chaises, des tables et des objets de valeur. Des agents de la MONUSCO ont été évacués à bord de 2 hélicoptères. Certains manifestants ont escaladé les murs de notre enceinte à Goma. Ce sont des pilleurs. Nous les condamnons avec la plus grande fermeté. C'est carrément du vandalisme, dénonce Kassim Diagne, chef adjoint de la MONUSCO. Des scènes similaires se sont aussi produites à la base logistique de la MONUSCO où un élève a été atteint à la jambe par une balle tirée de l'intérieur de la base logistique. La police onusienne a usé de bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants avant l'intervention des forces armées de la RDC. Plusieurs manifestants ont été interpellés.
9 civils ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche dans le nord-est de la RDC, près de la frontière avec l'Ouganda, dans une attaque attribuée aux rebelles ADF, indiquent les sources locales. Une dizaine de personnes ont été tuées lors des pluies diluviennes qui ont frappé la semaine dernière la Centrafrique, a déclaré lundi le président de la Croix-Rouge locale. Au Kenya, une trentaine de personnes sont mortes dimanche soir dans le centre du pays lorsqu'un bus de voyageurs a chuté d'un pont. Le point avec Rosine Munezero.
Le car a plongé d'une 40 mètres dans la rivière Niti alors qu'il franchissait un pont réputé être un lieu dangereux à cause d'accidents fréquents. Ce pont est à une 50 kilomètres de la ville de Meru, d'où était parti le bus à destination du port de Mombasa, dans le sud-est du pays. Une 20aine de personnes sont mortes sur le coup. 4 sont décédées à l'hôpital et 6 corps ont été sortis de la rivière ce matin, a détaillé Norbert Komora, préfet du comté de Tharaka Niti. L'enquête est toujours en cours pour établir la cause de l'accident, a-t-il ajouté. Le nombre de victimes sur les routes kenyanes est en hausse depuis plusieurs années. Entre janvier et juin, 1912 personnes ont été tuées, contre 1754 sur la même période l'an dernier, soit plus de 9% selon l'autorité de transport et de sécurité routière.
La commission onusienne d'enquête sur les violations des droits humains commises depuis le début du conflit dans la région éthiopienne du Tigré a entamé lundi sa première visite en Éthiopie, a annoncé l'ONU, mais le gouvernement éthiopien a rappelé conditionner sa coopération. Cette commission, composée de 3 experts, est chargée entre autres de mener une enquête approfondie et impartiale sur les allégations d'atteinte aux droits humains et de violation du droit international humanitaire et de celui relatif aux réfugiés commises en Éthiopie depuis le 3 novembre 2020 par toutes les parties au conflit au Tigré, rappelle le Conseil dans un communiqué. Elle est en Éthiopie jusqu'au 30 juillet. Les Tunisiens aux urnes ce lundi pour se prononcer sur une nouvelle constitution proposée par le président Kais Saied. Le texte, s'il est approuvé, va renforcer les pouvoirs du chef de l'État. Le point avec Abdourahmane Dia.
La participation est le principal enjeu du référendum où le oui a de fortes chances de l'emporter puisque les grands partis d'opposition ont appelé au boycott. Les premiers résultats sont attendus au plus tôt mardi. Après avoir voté, le président Kais Saied a appelé les électeurs à approuver sa constitution pour établir une nouvelle république fondée, selon lui, sur la vraie liberté, la vraie justice et la dignité nationale. La nouvelle loi fondamentale instaure un régime hyper-présidentiel accordant de vastes pouvoirs au chef de l'État en rupture avec le système parlementaire en place depuis 2014. L'opposition et de nombreuses ONG ont dénoncé une constitution taillée sur mesure. La Tunisie, confrontée à de graves difficultés économiques aiguisées par le Covid et la guerre en Ukraine, est aussi très polarisée depuis que le président s'est emparé de tous les pouvoirs il y a un an.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden, positif au Covid-19 depuis jeudi, ne présente pratiquement plus de symptômes de la maladie, a déclaré son médecin personnel dans une lettre diffusée lundi par la Maison-Blanche. Et ces symptômes ont désormais pratiquement totalement disparu, a écrit le docteur Kevin O'Connor. Le président, très légèrement enroué, souffre encore d'une petite congestion nasale, a précisé le médecin. L'incendie qui ravage depuis vendredi la forêt californienne continue de s'étendre. Des milliers de personnes ont été évacuées dans un contexte de fort pic de chaleur affectant des dizaines de millions d'Américains. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Baptisé Oak Fire, le feu s'étend dans le comté de Mariposa, près du parc national de Yosemite. Il a touché le nord-ouest, le centre et le nord-est des États-Unis. Une large partie du pays, dont la Californie, tout le sud, puis une grande partie de la côte est, a connu des températures de 37 degrés Celsius à 43 degrés Celsius. Favorisées par une extrême sécheresse, les vents et les hausses de température, l'incendie a brûlé plus de 6300 hectares de forêt, détruit 10 propriétés et en menace plusieurs milliers. Quelques 2000 pompiers appuyés par des hélicoptères sont mobilisés. Plus de 6000 personnes ont dû évacuer, selon un porte-parole des pompiers de Californie. Le parc de Yosemite, l'un des plus célèbres du monde, avait connu un incendie mi-juillet. L'Ouest américain a déjà connu ces dernières années des feux de forêt d'une ampleur et d'une intensité exceptionnelle, avec un très net allongement de la saison des incendies. Les scientifiques attribuent ce phénomène au changement climatique.
Le pape François a demandé lundi pardon pour le mal commis contre les autochtones au Canada, notamment dans les pensionnats pour enfants amérindiens gérés par l'Église, évoquant une erreur dévastatrice. Il a déploré que certains de ses membres aient coopéré à des politiques de destruction culturelle. Les enfants ont subi des abus physiques, verbaux, psychologiques et spirituels. Les paroles du pape, traduites en anglais, ont été accueillies par des applaudissements nourris après la demande de pardon. L'Ukraine a dit lundi s'attendre à reprendre ses premières exportations de céréales depuis le début de la guerre dès cette semaine, après la signature d'un accord avec Moscou et malgré le bombardement samedi par l'armée russe du grand port d'Odessa. Le ministre ukrainien de l'infrastructure a appelé les garants de l'accord, la Turquie et l'ONU, à garantir la sécurité des convois ukrainiens. Plus de 471 personnes ont été tuées, blessées ou sont portées disparues lors des violences qui ont eu lieu entre des gangs de Cité Soleil en Haïti du 8 et 17 juillet, a annoncé l'ONU lundi. Des hélicoptères d'attaque Apache de l'armée américaine stationnés en Corée du Sud organisent des exercices de tir aérien avec des canons et des roquettes, a annoncé lundi l'armée américaine. Séoul cherche à renforcer la dissuasion contre la Corée du Nord. L'entraînement, le premier de ce type depuis 2019, se déroule jusqu'au 29 juillet près de la zone démilitarisée entre les deux Corées.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la minute éco signée Nanit Sylvani Talani.
Le Zimbabwe introduit une pièce d'or visant à renforcer l'économie, à lutter contre la résurgence de l'inflation et à apaiser la soif du public pour les dollars américains. Les pièces ont été nommées Mosiwatunya, la fumée qui tonne, d'après les célèbres chutes Victoria du pays. L'inflation zimbabwéenne a atteint 191,60% en juin. Le groupe pétrogazier d'Algérie, Sonatrach, a annoncé dimanche que la livraison de gaz algérien vers l'Espagne via le gazoduc sous-marin Medgaz était momentanément suspendue en raison d'un incident qui s'est produit du côté espagnol. Les équipes techniques espagnoles sont à pied d'œuvre pour effectuer les réparations nécessaires et rétablir l'approvisionnement de l'Espagne en gaz dans les plus brefs délais, a ajouté la même source. Pour terminer, en Sierra Leone, le projet d'alimentation en eau et d'assainissement en milieu rural a permis d'augmenter de 13% l'accès à l'eau potable et de 3% l'assainissement de base pour environ 800 000 personnes. 15 systèmes d'écoulement d'eau, 25 robinets de systèmes de pompage à énergie solaire et 50 systèmes de collecte des eaux de pluie ont été mis en place. Plus de 10 000 forages ont été réhabilités et équipés. Le projet a été financé à hauteur de 39,38 millions de dollars américains par le Fonds africain de développement.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo avec vous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Athlétisme, fin hier des mondiaux à Eugene, ici aux États-Unis.
Oui, la Nigériane Toby Amusan a remporté le titre de championne du monde du 100 mètres haies avec un chrono de 12 secondes 06, mais avec un vent dans le dos trop important pour que le chrono constitue un nouveau record. Deux heures avant, elle a effectué un chrono de 12 secondes 12, retenu comme record du monde de la discipline. À 25 ans, la Nigériane s'impose comme la patronne du 100 mètres haies. Après avoir pris la quatrième place des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier et la quatrième place des derniers mondiaux en 2019 à Doha. De son côté, doublé sur le 800 mètres avec l'or pour le Kenyan Emmanuel Korir en 1 minute 43 secondes, le champion olympique devance l'Algérien Jamel Segati qui se contente de l'argent. Au classement général des médailles, les États-Unis sont premiers avec 33 médailles glanées, dont 13 en or. L'Éthiopie est deuxième avec 10 médailles, dont 4 en or. Le Kenya, quatrième, compte aussi 10 médailles, dont 2 en or.
Football, avec le premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2023.
Une compétition réservée aux joueurs évoluant sur le continent et mauvaise opération pour le Bénin, qui s'est fait corriger 3-0 au Ghana. Par contre, le Sénégal a presque assuré sa qualification au Libéria en s'imposant 3-0 également. L'Angola a fait pareil 2-0 à l'île Maurice. Autre victoire en déplacement, celle de Madagascar 1-0 aux Seychelles et de la Tanzanie en Somalie. Le Burundi assure 2-1 à domicile devant Djibouti et 1-0 pour la Gambie et la Sierra Leone, respectivement contre la Guinée-Bissau et le Cap-Vert.
Dans les sables Yacouba, les matchs qualificatifs pour la CAN de Beach Soccer 2022 ont débuté.
Des matchs qui se jouent en un tour unique à leur retour pour désigner les 7 qualifiés pour la phase finale prévue du 21 au 30 octobre au Mozambique. C'est déjà presque acquis pour le tenant du titre, le Sénégal, qui a corrigé le Cameroun 9-1. L'Ouganda et Madagascar ont aussi assuré, suite à leur victoire 5-2 sur les terrains des Comores et des Seychelles. À noter aussi les victoires du Malawi 3-2 devant la Tanzanie, du Ghana 6-5 face à l'Égypte et de la Côte d'Ivoire 7-6 contre le Maroc. Le Nigeria est déjà qualifié après le forfait de la Libye.
Enfin, cyclisme avant de nous quitter avec le retour en janvier 2023 du Tour du Gabon.
Après 2 années d'interruption en raison de la pandémie du Covid-19, la tropicale Amissa Bongo va retrouver sa place au calendrier international. La 16e édition de l'une des épreuves phares du continent africain va se courir du 23 au 29 janvier 2023 au Gabon.
Et c'est tout pour les sports. Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manoulakiza, place au dossier du jour. C'est dans un contexte tendu entre le Mali et la mission des Nations Unies que le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, effectue une visite de 5 jours au Mali. Comment est perçue cette visite au sein de la population ? Élément de réponse avec notre correspondant Mohamed Danyoko.
Expulsion du porte-parole de la MINUSMA, suspension de toutes les rotations de contingents militaires et policiers de la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Tout ceci à moins d'un mois du renouvellement du mandat de la mission au Mali. C'est dans ce contexte que le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est au Mali. Une visite qui, selon Daouda Sangaré, pourra permettre d'apaiser la situation.
L'arrivée de ce diplomate-là va beaucoup améliorer et essayer d'apaiser la tension diplomatique qui est entre la MINUSMA et le Mali. Et peut-être il va se profiter pour parler aussi de la crise qui se trouve entre le Mali et la Côte d'Ivoire par rapport à l'arrestation des 49 militaires au Mali. Et donc c'est vraiment une bonne chose. Et ça va améliorer les choses, quoi, et pour bouger la ligne.
Cette visite intervient après la publication de la note verbale de la MINUSMA par rapport aux 49 militaires ivoiriens qui ont été arrêtés et qualifiés de mercenaires par les autorités maliennes. Une note qui, selon Cyril Adoum, ne lève pas le flou autour de ce dossier.
J'ai lu le communiqué, j'ai mis la note verbale produite par la MINUSMA et après avoir fait une lecture, et personnellement je n'ai rien compris parce que je vois qu'il y a un flou qui est entretenu, qui s'entretient autour de ce dossier. La MINUSMA ne peut pas dire qu'elle ne connaît pas vraiment le dossier, c'est flou. Bon, pour moi c'est un flop, la note verbale.
La Côte d'Ivoire répète que ces soldats étaient venus dans le cadre d'une relève et réclame leur libération sans délai. Le Togo, saisi par les autorités maliennes, a accepté de faire la médiation. Pour Niadiala Keïta, observateur, la médiation togolaise va permettre une solution à cette mini-crise entre les deux pays.
Quand on sait que le Mali et la Côte d'Ivoire sont deux pays, frères, à ce stade, je demande à l'ensemble des autorités des deux pays de trouver une solution à cette crise. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire essaie de clarifier jusqu'à présent la position de ces militaires-là et que les autorités maliennes, elles aussi, essaient de voir, ne pas compliquer les problèmes entre les deux pays.
Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la première visite du président français Emmanuel Macron en Afrique depuis sa réélection. Cette visite au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau va dans le sens du renouvellement de la relation de la France avec le continent africain, selon l'Élysée. Sa tournée intervient dans un contexte de remise en cause des relations entre la France et le continent par une bonne partie de l'opinion publique africaine. Le second mandat de Macron permettra-t-il de relancer les relations entre Paris et ses partenaires africains? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
À Goma, dans l'est de la RDC, des manifestations de colère ont éclaté pour réclamer le départ de la mission onusienne. Les manifestants ont vandalisé deux bases de la MONUSCO et ont paralysé toutes les activités. Le reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Malgré les communiqués de la mairie de Goma interdisant toute manifestation contre les forces des Nations Unies, plusieurs dizaines de manifestants se sont mobilisés pour aller à l'assaut de la base militaire des Nations Unies située au quartier Les Volcans où ils ont pillé quelques biens. Kakule Bin Sankara, l'un des initiateurs de la dite manifestation.
Aujourd'hui, nous avons jugé mieux de commencer notre campagne. Bye bye MONUSCO. C'est la campagne qui consiste de dire à la MONUSCO de commencer à partir. On ne veut pas même voir l'air hélicoptère survoler l'espace congolais. Aujourd'hui, ce n'est que le début du commencement. Il y aura mille actions qui vont poursuivre. À ce terme, nous partons à leur base de RVA pour leur dire, si vous ne voulez pas laisser votre poids République démocratique Congo, commencez à partir.
Arrivé à la base logistique de la MONUSCO, située au quartier Katindo, les manifestants ont mis le feu sur le portail de l'enclos et certains ont réussi à saccager, puis piller l'un des plus grands entrepôts de la mission onusienne. Le personnel de la MONUSCO a été évacué de cette base par deux hélicoptères face à l'agressivité des manifestants. Une attitude qui condamne Christian Kabemba, acteur politique, qui reste tout de même optimiste quant au départ prochain des forces des Nations Unies.
Nous demandons tout simplement à la MONUSCO, bien sûr, de partir, mais aussi à la population d'être patient, de ne pas poser des actes de vandalisme, de destruction des sièges de la MONUSCO. Parce que cette MONUSCO est en train de partir, c'est une obligation impérative. Et nous croyons que le 22 ans de son existence sur notre sol, c'est un échec. Et donc, c'est imminent que la MONUSCO puisse quitter notre territoire.
C'est une honte, selon le président de la société civile de Goma. Marion Gavo pense d'ailleurs que les propos tenus la semaine antérieure par le président du Sénat congolais, Bahati Lukwebo, à Goma et à Bukavu, ont réveillé la colère de la population.
La société civile a également assisté à ce pillage des deux bases de la MONUSCO à Goma. Certes que son bilan est largement négatif. Nous pensons que ça va de l'irresponsabilité de notre gouvernement. Au lieu d'en découdre avec le processus normal avec la MONUSCO, certains politiciens viennent dans des meetings pour parler de cette question-là du départ. Et donc, la population en avait marre, mais ce discours des politiciens dans les meetings a enflammé la poudre.
Il y a eu de nombreuses interpellations. Le porte-parole du gouvernement a annoncé des poursuites judiciaires contre les auteurs des actes de destruction et de pillage. Zanem Neti Zaidi à Goma pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, à Oyo, au nord du Congo-Brazzaville. C'est l'une des étapes de sa tournée africaine pour expliquer que la Russie n'empêchait pas les exportations du blé ukrainien vers d'autres pays, notamment en Afrique. Mais Moscou devait s'assurer que tous les obstacles militaires aient été levés dans cette zone portuaire. Monsieur Lavrov a également annoncé l'appui de la Russie à la démarche du président Denis Sassou Nguesso dans la résolution de la crise libyenne. Le reportage de notre correspondant Arsène Séverin, qui est sur place à Oyo.
Après avoir passé plus de 2 heures d'entrevue avec le président Denis Sassou Nguesso à Oyo, le ministre des Affaires étrangères russe a expliqué à la presse que les deux pays avaient une même longueur d'onde sur plusieurs questions brûlantes au plan international. Sur la crise des céréales, par exemple, Sergueï Lavrov a assuré que tous les obstacles avaient été levés pour permettre à nouveau le trafic de cette denrée vers d'autres pays.
En ce qui concerne le terminal de blé, les experts ont aussi confirmé que ce terminal se trouve vraiment très éloigné de cette partie militaire et qu'il n'y a pas d'obstacle pour la livraison de blé et nous ne les avons causés non plus. Nos amis congolais comprennent très bien les causes de la crise présente alimentaire qui s'est accumulée pendant les derniers 3 ans. Ce sont notamment la politique erroneuse des Occidentaux. Et je crois qu'ils se rendent compte aussi que c'était notamment la politique des Européens sous la houlette des Américains qui a causé l'augmentation des prix.
le Congo et la Russie partagent une même vue sur la crise libyenne, a souligné le chef de la diplomatie russe qui a annoncé aujourd'hui à Ouyo le soutien de la Russie à la démarche du président Sassou Nguesso dans la résolution du conflit libyen.
Monsieur le Président a partagé son idée d'organiser une conférence de la réconciliation de la Libye où il entend inviter tous les participants, tous les représentants de la Libye.
Une position clairement expliquée ici par le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso.
Et puis Sergei l'a dit tout à l'heure, la Libye est un dossier que la Russie maîtrise bien. La Russie est un des acteurs majeurs sur le terrain. Et c'est une bonne nouvelle aussi que la Russie soutient puissamment le projet que porte le président Denis Sassou Nguesso d'organiser une conférence de réconciliation interlibyenne inclusive, prélude aux élections générales.
Sur le plan bilatéral, Sergei Lavrov a annoncé une coopération plus déterminée entre les deux pays dans les domaines du gaz et pétrole, de l'agriculture, de la recherche et de la formation universitaire. Depuis Oyo, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Nigeria, près de la moitié des ménages dépendent de générateurs très polluants en raison de la médiocrité des infrastructures du pays et de la flambée des prix du carburant. C'est ce qu'affirme un rapport conjoint de la société de recherche Steers et de la Sterling Bank du Nigeria. Un nouveau groupe appelé Solar Sister aide les femmes et les filles à accéder à l'énergie solaire et à devenir financièrement plus indépendantes. D'Abuja, le reportage de Timothy Obiezu, récit Yakuba Ouedraogo.
Esther Ayeni, propriétaire d'une entreprise, fait la démonstration de ses produits solaires à des femmes nigérianes. De nombreux ménages ne disposent pas d'une alimentation électrique fiable. Ces produits proviennent d'un groupe à but non lucratif appelé Solar Sister, qui aide des femmes comme Ayeni à gérer une entreprise d'énergie propre et rentable et donne aux clients l'accès à l'énergie renouvelable. Ayeni utilisait autrefois des lampes à pétrole et des piles sèches pour éclairer sa maison et sa boutique. Maintenant, elle utilise l'énergie solaire et vend ses produits à des clients d'Abuja et d'autres communautés.
J'apporte mes produits aux femmes, même dans les régions les plus reculées. Elles me payent les produits en plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils soient entièrement payés. Cela les aide. Chacune d'entre elles profite de la lumière.
Aujourd'hui, Solar Sister compte environ 2000 femmes entrepreneurs travaillant dans les communautés locales de 27 des 36 États du Nigeria. Olasimbo Sojirin, directrice de Solar Sister.
Cela fait 8 ans que nous avons démarré une innovation et que nous essayons de voir comment le genre et l'énergie sont liés et comment nous pouvons tirer parti du fait que les femmes sont à l'avant-garde de cette transition vers une énergie propre.
Aïchetou Ndanouza a rejoint le groupe l'année dernière avec seulement $80. Elle dit que son entreprise vaut maintenant environ $3000.
Cela nous aide beaucoup. Cela a beaucoup changé nos vies. Même mes enfants, mon mari et moi. Honnêtement, beaucoup de choses ont changé.
Près de la moitié de la population africaine est confrontée à une grave pénurie d'énergie, selon l'Agence internationale de l'énergie. Elle affirme que le Nigeria, la République démocratique du Congo et l'Éthiopie sont les pays africains les plus touchés par la pauvreté énergétique et que les femmes en supportent le fardeau. L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février a aggravé le problème. Les prix de l'énergie et des matières premières ont grimpé en flèche dans les communautés déjà durement touchées par la pandémie de COVID-19. L'expert en énergie Odayon Omamfoman affirme que les autorités s'efforcent d'atténuer le problème.
Beaucoup d'investissements vont dans tous les secteurs, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose qui va être instantané. C'est la conséquence des années, des décennies de non-investissement, de mauvaises politiques gouvernementales. Gardez à l'esprit que le monde sort d'une situation de confinement où les prix du pétrole étaient négatifs.
L'Agence internationale de l'énergie soutient que l'Afrique pourrait obtenir un accès universel à l'électricité d'ici 2030 en investissant $25 milliards par an dans le système énergétique, mais surtout dans l'énergie propre. Mais en attendant, Les entrepreneurs de Solar Sister continuent de convaincre davantage de femmes.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la production qui a permis la réalisation de ce journal, Michel Claire-Joseph, à la présentation, Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.